Je voudrais poser une question, faire une remarque à travers cet exposé que tu as fait. C'est vraiment une question qui s'adresse à toi et puis peut-être aussi à notre collègue de l'ESN, parce que je me demande si, autant je vois des rapports assez étroits entre les évaluations nationales qui, telles qu'elles existaient en français en mathématiques, les outils que nous avons, toi et moi, évalués auprès des enseignants. Autant je vois là une sorte de traduction de la problématique anglo-saxonne. Autant il me semble que dans le socle, enfin c'est ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure, j'ai comme l'impression qu'il y a une résistance française à la, notamment à la bipolarisation littératie-numératie, puis aussi à l'affirmation de ce lien entre l'évaluation, la culture humaniste, la formation du citoyen. J'ai l'impression que, et puis aussi le fait qu'il y a trois paliers prévus dans l'évaluation du socle commun, l'affirmation de ce droit donné au socle, à tous les élèves. Est-ce que tu perçois, Romuald, là, des éléments de résistance un petit peu à ces standards que tu nous as présentés, tels qu'ils existent dans le monde anglo-saxon, ou bien est-ce que tu y vois, au contraire, une espèce de mariage entre une tradition française et une culture anglo-saxonne qu'on chercherait à faire pénétrer dans les pratiques autrement que par les évaluations nationales?
Oui, bah écoute, je veux dire, résistance, c'est difficile de dire qu'il y a une résistance, parce que de toute façon, personne ne sait véritablement ce que c'est que l'évaluation. Quand on parle des évaluations nationales, les enseignants en sont assez éloignés. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a véritablement une résistance, parce que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une pression très forte du système pour que les enseignants utilisent davantage les outils d'évaluation qui sont mis à leur disposition. Pour l'instant, la réflexion du ministère n'est pas vraiment développée là-dessus. On commence, il y a des expérimentations sur livret de compétences, et je pense que Florence Robin, qui a fait un rapport sur cette question, interviendra là-dessus la semaine prochaine. Il y a des expérimentations, mais en ce moment, elles n'ont pas été capitalisées au niveau des académies. Il n'y a pas de remontée, donc on ne sait pas très bien comment les enseignants s'emparent de ces nouveaux outils d'évaluation qui sont mis à leur disposition. Sur les évaluations nationales, on sait effectivement qu'il n'y a pas tellement, c'est pas tellement une résistance, c'est tout simplement un manque, pas d'intérêt pour ces évaluations nationales, parce qu'ils ne voient absolument pas leur intérêt pédagogique dans la classe, et que souvent on leur facilite pas la tâche en termes de remédiation, parce que ça se heurte à des contraintes fortes dans l'établissement scolaire. Alors je pense que c'est plutôt, je sais pas s'il y a une résistance, mais il y a des difficultés au moins perceptibles, et on le voit bien à travers la mise en œuvre du socle commun, du ministère de l'Éducation, dans la traduction d'un certain nombre de recommandations, ne serait-ce que la recommandation de la Commission européenne. Parce qu'il faut bien dire que la stratégie de Lisbonne est là, qu'il y a une méthode ouverte de coordination maintenant auxquelles sont associés les États membres. Ils se sont engagés notamment à atteindre un certain nombre d'objectifs en termes d'indicateurs et de benchmarks. Alors si on prend l'exemple de la lecture, un des benchmarks, c'est augmenter le nombre d'élèves maîtrisant les compétences de base dans le domaine de la lecture d'au moins, je crois que c'est 20%, j'oublie toujours les pourcentages. Enfin, c'est un objectif sur lequel se sont accordés tous les États membres qui ont signé la stratégie de Lisbonne et qui se sont engagés dans cette méthode ouverte de coordination. Alors on n'appelle pas ça, l'un des indicateurs, on n'appelle pas ça socle commun, on appelle ça les compétences clés. Enfin, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que si on regarde les compétences clés qui sont à l'intérieur de la méthode ouverte de coordination, et si on regarde le socle commun de compétences, il y a correspondance assez forte entre les deux, hein. Alors évidemment, après, il y a des traductions sur la dimension de culture humaniste. On voit bien que là, il y a une forme d'hybridation entre une tradition républicaine que tu as parfaitement bien décrite, et puis des influences qui sont des influences européennes avant d'être des influences internationales et anglo-saxonnes, même si ces influences européennes sont elles-mêmes fortement influencées par des influences anglo-saxonnes. Et donc si la Commission européenne s'est orientée pour intégrer PISA dans l'un de ses indicateurs de la méthode ouverte de coordination, c'est parce qu'elle portait un intérêt pour ces nouvelles formes d'évaluation, et que notamment l'OCDE avait développé cet intérêt pendant une quinzaine ou une vingtaine d'années. Il faut bien comprendre qu'en termes d'expertise internationale et transfert d'expertise internationale, l'OCDE alimente beaucoup des réflexions de la Commission européenne. Donc maintenant, il y a cet engagement fort de la France dans cette méthode ouverte de coordination. Il y a cet engagement fort à travers une loi maintenant, hein, qui est quand même une loi de modernisation de l'école. On pourrait parler aussi de l'engagement à travers la LOLF, la loi de l'organisation de la loi de finances, qui définit aussi des indicateurs de pilotage pour le système éducatif. Ça va du ministère de l'Éducation en passant par les académies dans les établissements scolaires. Et on a, dans ces indicateurs LOLF, des compétences de base des élèves à évaluer qui font partie d'un ensemble d'indicateurs. Yvon Thévenot en parlera davantage hein, dans son atelier demain, mais c'est des éléments importants. Donc je pense qu'on a quand même une forme d'irréversibilité forte, j'en suis assez convaincu, de pass dependency, comme disent les sciences politiques, c'est-à-dire un sentier de dépendance qui fait que la France va s'aligner sur... ce nouveau référentiel des compétences de base, comment commencer à s'aligner des pays comme l'Allemagne, qui n'étaient pas du tout dans cette tradition-là, mais qui ont réagi par rapport aux résultats PISA, hein, et on l'a bien vu s'expliquer dans un article de la Revue française de pédagogie, et comme se sont alignés aussi les Pays-Bas, enfin un certain nombre de pays européens, et je pense que la France participe de ce mouvement-là. Alors effectivement... Il y a sans doute des principes de philosophie politique suffisamment forts, et tu les as bien présentés, hein, principes républicains, l'attachement à une culture humaniste, l'attachement à une conception de l'égalité des chances en termes d'égalité d'accès et pas égalité de résultats. Mais est-ce qu'il faut parler de résistance ? Pour l'instant, je trouve qu'on la voit pas tellement. Enfin, au moins, parmi, et peut-être que... Éric Larcher me contrariera, mais parmi les cadres de l'éducation, je pense que maintenant, c'est une culture qui commence à être bien partagée. J'ai l'impression.
Ça, c'est comme tout changement profond qui déstabilise les représentations qu'en avaient les uns et les autres de leur place dans le système, comme tout changement qui, quelque part, donne l'impression que tout ce qu'on a fait antérieurement n'a plus d'intérêt, de valeur, de sens ou autre. On s'accroche à ce qui rassure, on s'accroche à ce qui a été pour soi une légitimité de professionnel. Donc là-dessus, je crois qu'il ne faut pas s'en étonner. Je veux dire que ce n'est pas le socle commun en soi-même, c'est le fait qu'un changement profond, un grand coup de barre dans le bateau, ça bouscule un petit peu le bel ordonnancement de la vaisselle. Quoi. Je crois que c'est de ce niveau-là. Bon, alors c'est vrai qu'après... il y a quand même... Bon, allez, on va pas refaire toute l'histoire. Claude Lelièvre le démontre très très bien. C'est cet arbitrage qui a eu lieu dans les années 60 entre une influence, on va dire, des adeptes du premier degré, avec quand même un nombre restreint de maîtres qui est même unique au niveau du premier degré, et puis une influence du modèle un peu universitaire, avec des savoirs académiques, etc. Des pays ont fait un choix... de poursuivre le plus longtemps possible une transversalité, une polyvalence, une multivalence qu'on n'a pas forcément bien hein, d'ailleurs, etc. Et puis d'autres, comme en France, on a fait le choix de descendre le cloisonnement disciplinaire avec une approche d'expert, de spécialiste jusqu'en sixième. Bon, alors, c'est vrai que installé là-dedans pendant 30 ans, d'un seul coup, vous dites aux gens « Non, c'est pas ça du tout, on va changer », mettez-vous à leur place, c'est pas simple. Les cadres de proximité qui sont les chefs d'établissement, on leur dit depuis la rentrée 2005, attendez, l'enseignement des langues, c'est pas du tout ce que vous avez l'habitude d'organiser jusqu'à maintenant. Vous faites des groupes de compétences. Et vous me faites des barrettes par-ci, des espaces libres par-là, des modulations en cours de l'année, pourquoi pas des semaines bloquées où tout le monde parle la même langue, du cuisinier jusqu'au chef d'établissement, etc. Mais on peut être d'une audace pédagogique folle. Seulement, quand il faut le mettre en musique derrière... je regarde mes collègues, c'est bien joli toutes ces idées, on n'est pas contre. Mais donnez-moi des murs, donnez-moi des espaces, donnez-moi ce qu'il faut qui va avec. Je squatte l'établissement d'à côté qui va faire je sais pas quoi et je répartis toute ma population scolaire sur deux établissements, je récupère tous les profs de langue du secteur et puis pourquoi pas. Si l'IA est d'accord pour qu'à tour de rôle... La semaine 23, c'est tel collège qui fait cette musique-là, que la semaine 31, c'était l'autre, et qu'on mutualise toutes les profs sur un bassin. Mais pourquoi pas ? Mais je crois qu'il n'y a pas d'interdit dans l'audace pédagogique. Le problème, c'est qu'on est face à un principe de réalité qui, à un moment donné, bah, la marge d'initiative et de manœuvre, elle est épaisse comme une feuille de papier, quoi. Et voilà.
Oui,
bon, mais... alors, ceci étant, il y a aussi quelques, bon, bah, quelques arc-boutés sur touche pas ma discipline, quoi. Bon, mais vous connaissez tous les sites, machin, si vous voulez dessus, vous verrez les écrits un peu flamboyants, on va dire. Allez, de proclamation de la souveraineté de telle ou telle discipline. Bon, bah, je vous apprends rien.
Oui, c'est vrai qu'en même temps, la partition, mais tu l'as très bien dit dans ton exposé, elle s'est faite aussi dans les années 20-30. C'est-à-dire que, alors que des pays, justement, faisaient passer les tests de Binet-Simon dans le curriculum, eh bien la France est restée sur une conception forte de l'articulation entre les tests et l'orientation. Et donc, du coup, le passage des tests dans le curriculum se fait maintenant par un espèce de retournement de l'histoire, si je puis dire, et ça fait évidemment violence par rapport à des traditions anglo-saxonnes où finalement en permanence l'évaluation a accompagné les évolutions du curriculum. Et là, il y a aussi eu des batailles, hein. Je veux dire, aux États-Unis, par exemple, il y a eu des batailles sur le curriculum, et d'ailleurs aussi dans la mise en œuvre des standards, hein. Je veux dire, il y a eu des batailles féroces. Enfin, toujours, l'idée a toujours été quand même d'articuler fortement cette évolution des programmes scolaires à une réflexion profonde sur l'évaluation. Et là, d'ailleurs, il y a un champ de recherche sur l'évaluation qui s'est développé dans le monde anglo-saxon, et il est quasiment absent en France. Il existe, par exemple, en Belgique ou en Suisse, au Canada, enfin au Québec, mais finalement, étrangement, en France, c'est vraiment un non-objet, cette question de l'évaluation en termes de recherche. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que, alors là, c'est plus une inquiétude, c'est-à-dire que, à travers l'obligation de résultat, je suis pas sûr que le ministère ait bien compris l'ampleur du changement et du mouvement vers la accountability. Parce que l'idée, quand même, c'est de faire en sorte que les acteurs s'emparent des outils d'évaluation et qu'ils s'y emparent de manière contextuelle au niveau des établissements et qu'il y ait, se développe une capacité collective des enseignants dans la saisie, l'utilisation de ces outils. Or, alors, ce que les anglo-saxons appellent des approches plutôt bottom-up, alors qu'on a des approches plutôt top-down en ce moment au ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire qu'on considère qu'on va mettre en place des outils de premier niveau, on va développer les outils de second niveau, troisième niveau, en gros, c'est ministères, les académies, les établissements, et puis que les acteurs, les enseignants vont s'en emparer aussi facilement. Mais le problème, c'est que ces stratégies top-down, elles ont montré leur inefficacité. C'est-à-dire que les Américains y ont renoncé depuis longtemps, et les Anglais aussi. Alors, on se pose la question, vous parliez des experts tout à l'heure, mais que font les experts au sein du ministère de l'Éducation nationale s'ils ne sont pas capables d'analyser un certain nombre d'évolutions internationales dans certains pays, en montrant finalement, en essayant d'étudier plus précisément, la bonne stratégie pour arriver à mettre en œuvre des outils qui soient utiles au niveau des établissements et des classes. Et là, je serais un peu plus, peut-être plus pessimiste. Ce qui me rend optimiste, c'est qu'il y a un changement générationnel des enseignants qui arrivent, puisque 50% de la génération des enseignants va être remplacée, et ceux-là, ils ne sont pas nourris d'une tradition curriculaire, d'accroche forte aux cultures humanistes. Ils sont, c'est ce que dit Van Zanten, hein, Agnès Van Zanten et Patrick Rayou qui ont travaillé sur les nouveaux enseignants, ils montrent quand même qu'ils sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus soucieux des difficultés d'apprentissage de leurs élèves, et beaucoup plus réceptifs finalement ce qu'on leur donne en formation. Enfin, ils ont envie d'utiliser davantage les ressources qu'on met à leur disposition. Alors, on peut compter aussi sur ce changement générationnel, et ce renouvellement de 50% d'une génération d'enseignants fera en sorte que peut-être que, bah, finalement, la transition, elle sera peut-être aussi souple qu'elle a pu l'être pour l'arrivée du collège unique dans les années 70. Hein, on peut se poser.
Oui, vous avez répondu en partie à la question que je souhaitais poser, mais je voudrais y revenir quand même. Alors, d'abord, sans doute à cause de mon âge, je ne suis pas du tout d'accord sur cette idée de remplacement générationnel, parce que j'ai souvent l'impression que c'est vraiment pas une question d'âge. J'ai été très intéressé, comme beaucoup d'entre nous, par tout l'aspect informatif concernant le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande. J'aurais aimé que vous entendre peut-être un peu plus ce sociologue, justement, ce que vous venez de développer sur le comment ça marche, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est bien d'entendre des expériences positives. Ce qu'on aimerait voir, c'est quels sont les facteurs d'enclenchement. Comment est-ce qu'une pousse va un peu plus loin ? Parce qu'on comprend bien comment on fonctionne mal, comment ça a du mal à passer. Ici, en France, on aimerait mieux voir les facteurs de progression et d'évolution dans les pays où certaines cultures professionnelles ont mieux fonctionné.
Bon ben là, ça va prendre des heures, il faudra faire une autre conférence, parce que si je commence à, alors du coup, devenir sociologue et expliquer le démontage justement de ces politiques néolibérales anglo-saxonnes en montrant justement comment on peut les, en opérer une critique, ça va prendre un peu de temps. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que effectivement, c'est des politiques d'inspiration néolibérale à l'origine qui ont contribué fortement à mettre, à remettre en cause le système existant, qui est un système, je l'ai dit, articulé au modèle compréhensif avec une conception l'État traditionnel relayé par ses corps d'inspection. Si je prends l'exemple de l'Angleterre, Nouvelle-Zélande, parce que les États-Unis c'est plus compliqué et en plus il y a une mosaïque d'États avec des situations très différentes. Mais si on regarde bien, l'idée ça a été d'abord de développer le school choice, c'est-à-dire le choix de l'école. C'est-à-dire on a fait en sorte que ce soit pas l'État qui décide pour les familles, les parents d'élèves, ce qui était bon pour leurs enfants, mais que ce soit les familles elles-mêmes qui décident ce qui était bon pour leurs enfants en diversifiant le choix de l'école. Alors pour diversifier le choix de l'école, on a opéré une diversification du statut des établissements scolaires, une diversification de l'offre éducative pour adapter cette offre à la diversification du choix. Mais ça a été des choix politiques très forts qui ont été faits. Ensuite, l'idée a été, je vais un peu vite, hein, mais l'idée a été d'informer ce choix. Et donc pour informer ce choix de l'école, il fallait développer des instruments d'évaluation et notamment des indicateurs et classer les établissements en fonction de leur performance. Donc on a développé les systèmes d'information sur les résultats de l'école de façon à ce que non seulement les enseignants, mais aussi les décideurs politiques, les chefs d'établissement et aussi les parents d'élèves puissent avoir accès à une information qu'on voulait la plus transparente possible et la plus accessible possible. Aujourd'hui, vous allez sur le site du ministère, alors je parle plus pour l'Angleterre, parce que la Nouvelle-Zélande c'est un petit peu différent, mais sur le site du ministère de l'Angleterre, du site de département d'éducation britannique, vous avez accès pour chaque établissement à ces résultats, les résultats des élèves sur plusieurs années, et vous avez accès aussi aux audits qui ont été faits par les inspecteurs quand ils ont audité l'établissement. Donc vous avez un détail informationnel très fort sur l'établissement qui, selon les concepteurs, les décideurs politiques, permet aux parents d'élèves d'exercer leur libre choix. D'accord ? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette politique, elle n'est pas seulement une politique des conservateurs, elle a fait l'objet d'un accord, on dit souvent, bipartisan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'abandon de cette politique quand, par exemple, les démocrates aux États-Unis ou les travaillistes en Grande-Bretagne ou en Nouvelle-Zélande ont pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a eu une continuité parfaite de ces politiques sur l'idée qu'il fallait, d'une part, organiser le school choice et développer un système d'évaluation et d'information qui permette aux parents d'élèves de mieux exercer ce choix. Mais alors pour ça, il a fallu évidemment révolutionner un petit peu l'organisation pédagogique des établissements scolaires. Et donc, à la fois, on a développé le travail d'équipe, le travail pédagogique en dehors de la classe. Donc les enseignants ont été astreints parce qu'on a développé des standards professionnels à exercer des activités pédagogiques ou de construction de projets ou d'encadrement des élèves en dehors de la classe. Et puis, on a demandé aux enseignants de changer la nature de leur formation, c'est-à-dire de faire des efforts en termes de développement professionnel. J'ai développé la notion tout à l'heure, donc je ne vais pas la reprendre, mais ce développement professionnel étant pris en compte dans l'évaluation de l'établissement, mais aussi l'évaluation des enseignants et dans leur carrière professionnelle. Donc ça a été l'idée d'un management de la performance par des indicateurs, axé à un développement du consumérisme scolaire, du quasi-marché scolaire, mais avec l'idée qu'on allait changer aussi l'organisation pédagogique des établissements pour y répondre. Donc tout ça, évidemment, il y a une transformation en profondeur du contexte des établissements scolaires. Alors c'est critiqué aussi par les sociologues. Il y a une critique sociologique qui est faite, notamment en Angleterre, il y a des critiques assez fortes des sociologues anglais sur cette dérive, notamment cette logique de privatisation et d'accentuation du marché, enfin de la logique marchande qui contribue à augmenter la ségrégation sociale entre les établissements scolaires et entre les élèves. Mais en même temps, c'est des principes qui sont défendus parce qu'on considère que on ne pouvait plus rester sur ce compromis boiteux de l'école compréhensive. Il y a eu des dénonciations très fortes de l'école compréhensive dans les années 70 au motif que la pédagogie qui était développée dans ces écoles compréhensives n'était pas adaptée, qu'elle conduisait à une baisse du niveau des élèves, etc., etc. Donc il y a eu des critiques très fortes dans les années 70, et c'est au nom de ces critiques que s'est développé le nouveau système. Hein. Donc voilà. Donc voilà le type de critique qui est faite. Bon, alors, ceci dit, je ne suis pas sûr qu'en France, on aille véritablement vers une dérégulation marchande, comme on a pu l'observer en Angleterre ou en Nouvelle-Zélande, même si on parle d'assouplissement de la carte scolaire. Pour l'instant, on n'en est pas à des établissements qui sont mis en concurrence avec un système d'information qui soit tel que, véritablement, on soit dans une situation de quasi-marché scolaire. Donc, il faut être prudent aussi dans l'analyse de l'évolution du système français. Mais, effectivement, il y a des emprunts qui sont faits à des politiques anglo-saxonnes. Alors, sur remplacement générationnel, là, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que, je veux dire, c'est même pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne. C'est-à-dire que la Commission européenne a quand même un certain nombre d'experts qui ont développé des études démographiques pour essayer de prévoir quel a été l'horizon. Alors c'est la grosse préoccupation de la Commission européenne, c'est une question démographique. C'est-à-dire comment faire en sorte qu'on ait une main-d'œuvre qualifiée à l'horizon 2020-2050 pour faire face à la compétition internationale avec les États-Unis et avec la Chine et les pays d'Asie du Sud-Est. Et donc l'idée, c'est d'augmenter la capacité de la main-d'œuvre et sa qualité en termes de compétences de base et compétences avancées pour faire en sorte qu'elles soient à même de rivaliser dans cette compétition internationale. Et un des facteurs de cette qualité, d'amélioration de la qualité, c'est le corps enseignant, d'après la Commission européenne. Et donc il faut tout faire pour adapter le corps enseignant à cette modernisation de l'école qu'ils souhaitent, parce qu'ils prennent évidemment des règles anglo-saxonnes. Donc l'idée, c'est une question démographique que se pose la Commission, c'est que on va avoir véritablement un départ important d'enseignants avec des mises à la retraite des enseignants. Et donc ce corps enseignant qui arrive, la question c'est comment le former pour qu'il puisse mettre en œuvre ses compétences de base via le développement professionnel pour augmenter l'efficacité et la qualité des systèmes éducatifs. Ça, vous le trouvez dans les rapports de la Commission européenne. C'est pas moi qui l'invente, mais effectivement, il y a cette dimension-là très forte. Si vous regardez un rapport, un séminaire de travail qui a été conduit par le Conseil d'analyse stratégique. Le Conseil d'analyse stratégique, qui est une entité qui est proche du Premier ministre, c'est celle qui a remplacé le commissariat au plan. Il reprend la stratégie de Lisbonne et développe le même type d'analyse, le même type de rhétorique. Ça veut dire que même au sein, hors du ministère de l'Éducation nationale, au sein du gouvernement français, et là, à mon avis, il y a un accord bipartisan aussi, on est persuadé maintenant qu'il faut mettre en œuvre les recommandations de la stratégie de Lisbonne. Et je dirais, le rapport Attali dit pas autre chose.
Moi, quitte à dire quelque chose qui paraisse un peu hors sujet, je veux juste vous dire que je suis à terre à l'UFM d'Aix-Marseille. Donc justement, je forme les PE1 pour leur enfin en tout cas, je les prépare au concours. Et donc les deux grands modèles d'évaluation scolaire, c'est bien sûr l'évaluation sommative, l'évaluation formative telle qu'on l'a entendu parler aujourd'hui, mais il me semble, enfin sans en toute humilité, que ça fait quand même vachement longtemps que ces modèles-là ils existent, parce qu'ils enfin moi ça fait pas très longtemps que je travaille ma culture en évaluation, mais ces deux modèles-là ils sont connus, répandus. Il n'y a pas de troisième modèle, il n'y a pas d'alternative au niveau de l'évaluation scolaire telle qu'elle est pratiquée en France.
Alors ce que j'essaie de montrer, si vous voulez, c'est que justement ce modèle de l'évaluation pour les apprentissages est un modèle qui se rapproche de l'évaluation formative, mais c'est pas le modèle de l'évaluation formative tel qu'il est enseigné dans les UFM. C'est-à-dire c'est une autre conception de l'évaluation formative qui fait en sorte que l'information à disposition de l'enseignant dans sa classe devient une ressource sur laquelle il doit agir. Alors cette information, elle peut être chiffrée, ça peut être une information de type quantitative, mais c'est aussi une information qu'il collecte dans l'interaction qu'il a avec ses élèves. Donc c'est une conception qui vise à intégrer les deux aspects d'évaluation sommative et d'évaluation formative, mais dans un process plus centré sur la façon dont les enseignants peuvent utiliser la diversité des informations qui sont mises à disposition. Et c'est là, en sens, que c'est assez novateur, parce que sinon, effectivement, Black et William, ils ne seraient pas passé leur temps à inventer ce nouveau concept d'évaluation pour les apprentissages s'il s'agissait de faire une reprise de la distinction évaluation sommative et évaluation formative qu'avait fait, Bloom en son temps.
Non, mais justement, parce qu'au niveau de l'évaluation formative, telle que bon, moi je l'avais comprise, c'était vraiment une régulation en accompagnement des apprentissages sur le fait, etc. Et moi, je pense que des moments d'évaluation dans une classe, il y en a beaucoup. Seulement, tant qu'on ne changera pas notre conception de l'évaluation et le modèle qu'on a de l'évaluation, on ne les verra pas, ces moments-là.
Mais j'ai pas dit
justement, oui. Dans votre exposé, tout à fait, oui. Ça m'a fait, enfin, j'ai trouvé ça remarquable parce que justement, vous proposiez, enfin, vous disiez qu'il y avait des outils qui étaient peut-être pratiqués, utilisés par les enseignants, mais qu'on ne savait pas reconnaître. Par exemple, le fait de parler, de réguler avec un élève à la fin du cours ou des choses comme ça, pour moi, c'est des moments d'évaluation. C'est des manières de s'apercevoir de là où il en est, etc.
Et je suis tout à fait d'accord avec vous.
Et c'est vrai qu'à l'UFM, en tout cas, tel qu'on nous demande d'enseigner, on va dire, l'évaluation formative, c'est pas ça. C'est pas l'évaluation quotidienne qui est faite par chacun enseignant avec la liberté qui est la sienne dans sa classe.
Bah, pour être un peu provocateur, si vous voulez, le problème quand on parle jusqu'à présent, quand on parlait d'évaluation, c'est qu'on prenait finalement les enseignants pour des idiots culturels. Mais ils se disent, c'est pas des idiots culturels les enseignants. Ils réfléchissent justement à leur évaluation, à la diversité des formes d'évaluation qu'ils mettent en œuvre dans la classe. Ils jugent les élèves, ils jugent les tâches, ils jugent les activités. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de conscientisation, si je puis dire, de ces différentes formes d'évaluation. Et sans doute là, un des travaux de la formation, mais aussi de la recherche, c'est d'arriver à une meilleure conscientisation de ce que font les enseignants, de façon à développer une forme de réflexivité sur ce qu'ils font en bien, mais quelquefois qu'ils font aussi en mal. Et c'est sans doute la tâche des formateurs et des chercheurs de leur dire, mais pas leur dire de manière, stigmatisante, mais leur dire en leur montrant comment ils peuvent, pour leur propre intérêt, faire évoluer leur pratique.
Oui, parce que justement, pour moi, la recherche a du retard par rapport à ce qui se passe concrètement dans les classes. Donc justement, c'est pour...
Pas la recherche anglo-saxonne, en tout cas.
Ah non, pas en France. Je parle en France franco-français. Mais justement, quand on observe les étudiants, les enseignants, je pense qu'effectivement, on peut voir plein d'habiletés et d'ingéniosité pour évaluer. Vraiment dans une évaluation formative et une régulation privée entre le prof et un élève.
Voilà, mais il faut évidemment capitaliser là-dessus et essayer de recueillir des informations sur ce que font les enseignants véritablement dans leur classe. Ça, c'est un programme qui m'intéresserait. Un programme de développement professionnel, comme je l'ai évoqué, avec des formateurs et des chercheurs et des praticiens, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en œuvre. Mais là, on se heurte peut-être à un certain nombre de résistances institutionnelles et les choses ne sont pas si faciles que ça à mettre en place.
Mais je crois que c'est très important ce que vous dites. J'ai dit dans mon exposé que les enseignants que nous avons interrogés disaient, surtout les plus expérimentés, disaient « mais on n'a pas besoin des évaluations nationales, c'est compliqué, votre logiciel, moi j'ai 15 élèves ou j'ai 20 élèves, en milieu rural c'était parfois 15 ou 10, je les connais parfaitement, je les évalue tous les jours, je vois à leur façon de me regarder que ça va ou ça va pas ». Etc. Et toutes ces petites choses-là, on aurait bien intérêt à les regarder de beaucoup plus près, plutôt que de peut-être d'importer parfois brutalement des outils extrêmement complexes, mais qui laissent de côté la pratique quotidienne de l'évaluation, dont il faudrait aider les enseignants à prendre conscience peut-être, et en formation aussi. Ça, c'est la routine du métier.
Question.
C'est sûr. Non, mais, ça, c'est vrai.
Je crois que vous avez raison de le dire. Non, mais il faut ramener ça toujours à des situations et des contextes spécifiques. C'est-à-dire que l'enseignant, avec la meilleure volonté du monde, essaie de faire ce qu'il peut dans un environnement qui est contraint. Et donc, évidemment, il y a des situations différentes entre collèges, il y a des situations différentes entre écoles primaires, et donc il faut tenir compte aussi de ça.
Oui.
Et on n'en tient pas suffisamment compte. C'est-à-dire qu'on ne pose pas la question quel est l'environnement, l'enseignement. Quel est l'environnement de l'apprentissage et quelles sont les ressources que peut mobiliser l'enseignant par rapport à cet environnement? Ça, c'est une question qu'on devrait se poser davantage. On va peut-être arrêter là parce que je sais pas. Oui.
Juste pour rajouter un mot, le mot de la fin, en essayant d'être bref. Je pense que par rapport, vous avez bien répondu à cette question sur pas tellement les modalités, mais les facteurs de changement, on peut quand même imaginer que les choses évoluent positivement et qu'il y a un développement professionnel des enseignants sur ces questions en dehors du modèle libéral, en dehors du choix scolaire sans... enfin du choix d'école tel qu'il est présent dans les pays, dans certains pays, etc. On peut penser que on pourrait trouver des formes de développement à partir des demandes des enseignants en réseau, tel que ça se fait d'ailleurs dans tel ou tel domaine, je pense au TIS ou à des choses comme ça, qui soit ni cette rigidité avec descente d'injonctions complètement vaines venant d'en haut, ni la force du marché qui fait éclater non seulement la gangue scolaire dans ce cas-là de rigide, mais aussi tout le tissu social dans ce qu'il a de protecteur pour les individus. Donc je pense qu'il y a d'autres formes à trouver qui peuvent être...
Je suis d'accord avec vous, mais vous m'avez demandé d'être sociologue critique, alors j'ai joué le jeu et j'ai été sociologue critique, mais c'est vrai qu'on peut considérer que dans le développement professionnel des enseignants, il y a beaucoup d'enseignants qui s'y retrouvent, parce que c'est des enseignants qui s'investissent en dehors de la classe, qui exercent des fonctions de coordination pédagogique, des fonctions de facilitateur aussi ou de tuteur, c'est-à-dire qu'il y a des enseignants vieux, enfin des vieux enseignants, qui vont former des plus jeunes... et qui montrent, à travers leur expérience professionnelle, ils montrent un certain nombre de savoir-faire et de recettes qui marchent. Et donc, c'est très apprécié par les jeunes enseignants. Donc, il y a des possibilités pour les enseignants de s'investir professionnellement en dehors de la classe, et c'est ce que permet le développement professionnel, mais aussi ce que permet une autre forme d'organisation pédagogique des établissements scolaires. Et ça, en France, c'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'on se pose la question depuis longtemps, mais entre l'enseignant dans sa classe et le chef d'établissement, quelles sont les fonctions intermédiaires qui existent dans l'établissement scolaire? Eh ben, on n'en voit pas beaucoup. Hein, on voit effectivement des gens qui s'investissent, mais dont le travail est invisible pour la communauté éducative, alors qu'ils remplissent une fonction essentielle, parce que, par exemple, ils gèrent le réseau informatique, parce qu'ils passent leur temps à faire du soutien pour les élèves en difficulté, parce qu'ils développent des projets pédagogiques ou des projets européens. Enfin, je veux dire, il y a en plus une demande forte de la part de ses collègues d'une reconnaissance de leur travail, mais l'institution est incapable de le faire. Au moins, on peut dire qu'en Nouvelle-Zélande et en Angleterre, on a pris en compte cette question-là.